l'attention ouverte, qui est probablement la pratique méditative la plus compliquée à aborder. Et pas forcément compliquée à expliquer, mais compliquée à pratiquer et à se sentir à l'aise en le faisant. Autant la centration sur la respiration est quelque chose d'assez évident, autant l'attention ouverte, on peut assez facilement s'y perdre. Dans les compétences méditatives de base, pour moi, il y en a trois. Il y a calmer et stabiliser l'esprit, ce qu'on va justement surtout faire avec des méditations où on se focalise sur quelque chose. Ça permet, en revenant toujours au même objet, de fabriquer du calme, de fabriquer de la stabilité, de transformer un esprit qui est agité et dispersé en un esprit qui est plus concentré, ramassé, stable. La deuxième, c'est observer ce qu'on vit en pleine conscience, du coup, sans se focaliser sur quelque chose de particulier, mais en vivant ce qui est présent dans notre attention en pleine conscience. C'est l'attention ouverte. Et la troisième compétence, c'est cultiver les états d'esprit qui nous font du bien. Donc, encourager certains états d'esprit, comme la bienveillance, la compassion, la gratitude, le contentement, qui, si on leur donne plus de place, vont nous rendre plus heureux, avec un peu de chance, surtout sur le long terme. Donc, ces trois compétences sont importantes. Et l'attention ouverte, un de ses aspects intéressants, c'est que finalement, on peut faire n'importe quoi en état d'attention ouverte. On ne peut pas se concentrer sur autre chose que la respiration en se concentrant sur la respiration. Donc une pratique méditative où on se focalise sur quelque chose, elle n'a pas d'application possible dans la vie quotidienne à part sous forme de pause. C'est comme ça qu'on l'utilise. Mais si on est en train de couper des légumes, on peut éventuellement se focaliser sur un aspect de l'expérience, là. Le contact du couteau éplucheur avec la carotte, et on peut se limiter à ça, ou on peut être en état de conscience de ce qui se passe en nous pendant qu'on pèle les légumes, et dans ce cas-là, c'est de l'attention ouverte. Donc c'est l'état d'esprit qui, finalement, peut nous accompagner quoi qu'on soit en train de vivre. Donc il est très utile pour emporter la méditation dans la vie quotidienne. Concrètement, si on veut définir l'attention ouverte, ce serait observer les sensations en tant que sensations, en tant que phénomènes présents dans l'attention, qui ne sont pas qui nous sommes, qui vont changer et passer. Observer les sons en tant que sons, en tant que phénomènes présents dans l'attention, qui ne sont pas qui nous sommes, qui changent et qui vont passer. Pareil pour les images que voient nos yeux, pour les goûts, les odeurs, les pensées et les émotions. Donc c'est cette capacité à observer ce qui nous passe dans l'attention en tant que simple son, sensation, image, pensée, et d'une façon particulière qui nous permet aussi de remarquer que c'est pas nous, que c'est quelque chose qui est dans le champ de notre attention, ce qu'on appelle se désidentifier, et que ce quelque chose va passer, va être remplacé par autre chose. Il y a une espèce de renouvellement permanent de ce qui occupe le champ de l'attention. Ce que cela apporte. Alors, j'ai une vieille définition. J'aime bien une définition, plutôt un exposé de ce que ça peut apporter. Alors, issu de la philosophie bouddhiste, je rappelle mon avertissement d'usage, je ne suis pas bouddhiste du tout, mais la philosophie bouddhiste, pour un enseignant de méditation laïque, c'est un peu comme un très vieux livre de cuisine où il y a d'excellentes recettes. Donc, il faut connaître ces classiques. Et cette histoire-là, c'est une de mes préférées, de celles que je connais dans les suttas bouddhistes. C'est un ermite qui s'appelait Bahiya, qui avait atteint un grand niveau de développement méditatif, donc qui avait passé des années dans son ermitage à méditer, et qui avait l'impression de patiner, de ne pas progresser. Il visait le fameux éveil, mais il s'en sentait très loin. Et on lui a dit que ce monsieur Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha, était dans la région et il a absolument voulu le rencontrer, en espérant que peut-être il pourrait booster sa pratique méditative. Donc, il a demandé où il était. On lui a dit, il est en train de faire l'aumône avec son bol. C'est pas le bon moment pour aller le déranger, mais peut-être que demain je vais mourir. Je résume parce que c'est il y a beaucoup de répétitions. Donc, il faut absolument qu'il me réponde maintenant. Donc, il lui a demandé plusieurs fois et à chaque fois, il a dit, mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. C'est toujours pas le bon moment. Et à force d'insister, il me dit, mais si demain je meurs, ce serait catastrophique. Je n'aurais pas eu l'occasion d'apprendre cette sagesse que tu pouvais me transmettre. Alors, finalement, on imagine un monsieur Gautama qui a un grand soupir. Il dit, bon, ok. Il lui donne un enseignement en partant du principe que d'une part c'est quelqu'un d'expérimenté, donc concentrer son esprit, il sait faire, et d'autre part il n'a pas beaucoup de temps, vu qu'il est toujours occupé. Alors ce qu'il lui dit, c'est, alors, Bahia, tu dois t'entraîner de cette manière. En ce qui concerne le vu, il n'y a que le vu. En ce qui concerne l'entendu, il n'y a que l'entendu. En ce qui concerne le ressenti, et là c'est autant le toucher, le goût, l'odorat, en ce qui concerne le ressenti, il n'y a que le ressenti. En ce qui concerne le penser, il n'y a que le penser. C'est comme ça que tu devrais t'entraîner. Et quand pour toi, il n'y a plus que le vu en relation avec le vu, plus que l'entendu en relation avec l'entendu, plus que le ressenti en relation avec le ressenti, plus que le penser en relation avec le penser, alors, Bahia, il n'y a plus de toi en relation avec ça. Et quand il n'y a plus de toi en relation avec ça, il n'y a plus de toi ici. Et quand il n'y a plus de toi ici, tu n'es alors ni ici, ni de l'autre côté, ni entre les deux. Et ça, simplement ça, c'est la fin du stress, de la souffrance. La traduction qu'on choisit pour le mot dukkha, hein, qui veut dire beaucoup de choses, mais essentiellement l'insatisfaction constante liée à la nature humaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tel que je le comprends, c'est les vertus de l'attention ouverte comme manière de se désidentifier de son expérience. Donc, si on considère qu'une émotion n'est pas qui nous sommes, mais simplement une émotion, on n'est plus pris ni dans l'émotion, ni dans la personne qui l'observe, on est dans quelque chose d'autre qui est notre faculté d'observation de l'émotion. Et c'est ça qui aurait, selon ce vieux livre de cuisine, un effet libérateur, de n'être ni soi, ni l'émotion, mais d'être dans la pure observation d'une émotion qui apparaît, nous met dans un lieu qui nous protège de la souffrance psychologique qui survient si on est englué dans soi-même ou dans l'émotion elle-même. C'est plus clair? C'est comme ça que je l'ai compris, ce paragraphe. En version laïque, un des apports de l'attention ouverte, c'est un apport à la réduction du stress, parce que justement, ça permet d'alléger le poids de l'identification qu'on fait automatiquement avec ce qu'on vit. Pour vous donner une idée de la gradation du niveau 0 ou 1 au niveau le plus méditatif, au niveau complètement non méditatif, si on ressent de la tristesse, et c'est valable pour n'importe quelle autre émotion, on va penser, le monde est vraiment très triste. Je suis triste, mais la réaction c'est, le monde est vraiment très triste. Si on est anxieux, le monde est vraiment très anxiogène et plein de dangers. Ça c'est le niveau 1. Le niveau 2, on est capable de dire, moi, virgule, je suis triste. Il y a déjà une conscience que c'est là la tristesse, c'est pas nécessairement dans le monde autour de nous, d'autres personnes le vivent peut-être comme étant moins triste. Au niveau 3, il y a du chagrin en moi. C'est déjà plus nous en tant que personne qui sommes tristes, c'est une conscience que quelque chose est en nous hein, et qu'on peut appeler ça du chagrin. Le niveau 4, qui est le niveau méditatif de l'attention ouverte, il y a du chagrin en ce moment, dans mon expérience. Il n'est pas qui je suis, seulement un phénomène. Il est apparu et il va passer. Et dans cette perspective-là, on est complètement avec l'observation de ce qui se passe en nous. On observe quelque chose, indiscutablement, il y a du chagrin. Mais ce n'est pas le mien. Hein. C'est quelque chose qui est présent dans mon expérience. Et ce chagrin, d'une part, il n'est pas moi, mais d'autre part, il va forcément passer, puisque toutes les émotions passent. Et je peux me contenter de le vivre pleinement, de le laisser monter, de le laisser descendre. Et la désidentification permet beaucoup plus facilement de le faire. Quand on s'identifie à une émotion, on la fige aussi parce qu'elle est une partie de nous, et elle acquiert une espèce de stabilité, elle nous constitue en tant que personne, elle nous définit en tant que personne. En fait, si on prend l'exemple de la tristesse ou de l'anxiété, c'est pas seulement l'anxiété en elle-même qui est difficile à vivre, parce qu'elle est clairement désagréable, c'est aussi le fait qu'elle marque notre identité au moment où elle devient mon anxiété, ou moi, virgule, personne anxieuse. Alors qu'on peut imaginer que si on est face à de l'anxiété, une chose qui est apparue, qui n'est pas moi, qui va passer, on peut faire preuve de curiosité pour cette anxiété-là, on peut faire preuve de compassion, de curiosité marquée de tendresse en fait, une forme de bienveillance pour cette émotion-là qu'on est en train d'observer. On sait que ce n'est pas nous et on sait que ça ne va pas toujours rester là. Alors qu'avec mon anxiété, c'est vraiment notre identité même qui est remise en question. On a l'impression d'être littéralement d'avoir quelque chose en nous qui nous fait du mal, qui nous ronge et qu'on devrait être capable d'expulser, de sortir de nous. On perd à ce moment-là de vue le fait que c'est quelque chose de transitoire et que c'est un phénomène universel qui en ce moment est simplement dans notre attention à nous, comme il est dans l'attention de beaucoup d'autres personnes. Il y a aussi une facilité quand on se détache de mon anxiété, à percevoir que c'est une émotion universelle et qu'on est dans la même situation que toutes les personnes dans le monde qui en vivent aussi. Donc, sous l'angle de la réduction du stress, cette perspective, elle peut alléger la façon dont on vit certains moments difficiles. Et évidemment, diminuer la réactivité et les fameuses flèches qu'on a évoquées dans le cours, parce que c'est en observant une émotion comme étant un phénomène qui nous arrive qu'on peut réaliser qu'elle ne va pas durer éternellement et donc qu'on n'a pas besoin d'y réagir en faisant quelque chose, en ruminant autour, en cherchant une solution, en fuyant dans une expérience agréable. Plus profondément, au-delà de la réduction du stress, et je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais ça renforce un sentiment d'intégrité quand on passe du temps avec cet état d'esprit-là. Une forme de sécurité. En fait, l'observation de la colère n'est pas colérique. L'observation de l'anxiété n'est pas anxieuse. L'observation de la tristesse n'est pas triste. Donc, on prend contact avec une partie de nous qui conserve toujours son intégrité, même si on vit quelque chose de très difficile à vivre. Donc, plus on passe de temps dans cet état où on est capable d'observer les émotions et tout ce qui nous arrive, en fait, comme quelque chose qui se manifeste et qui va passer, plus on est sécurisé sur le fait qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas affecté par une émotion ou un état ou une douleur. L'observation de la douleur n'a pas mal non plus, même si ce n'est pas toujours évident concevoir quand on est en plein dedans et qu'elle est intense. Il y a une anecdote sur un maître de méditation réputé qui faisait un pèlerinage pour la première fois ou une des premières fois de sa vie dans des lieux saints en Inde, qui s'en était beaucoup réjoui, mais l'Inde étant l'Inde, il était avec une équipe de méditants qui l'accompagnait, il était très âgé. Il y a eu beaucoup de problèmes de retard, de bus surchauffés où l'air conditionné ne fonctionnait plus. Et ils étaient à un moment dans une station de bus, il faisait horriblement chaud, le bus avait des heures de retard, et comme il avait l'âge qu'il avait, un des méditants lui a demandé « Mais ça va ?» Et sa réponse, c'était de dire « Il y a de la chaleur, mais je n'ai pas chaud. Il y a de la frustration, mais je ne suis pas frustré. Il y a de l'impatience, mais je ne suis pas impatient. » Et c'est exactement, peut-être qu'il frimait un peu, mais c'est quand même exactement ce qu'on cherche à obtenir. Cette distinction qui nous permet finalement de ressentir qu'en effet, il y a de l'impatience, de la frustration, de la rage meurtrière, mais ce n'est pas ce que nous ressentons et encore moins qui nous sommes. Cette partie de nous qui peut tout observer, qui n'est jamais affectée par ce qu'elle observe, elle constitue une sorte de refuge intérieur. On peut l'envisager comme ça. Et j'ai une anecdote qui est que moi je trouve magnifique, mais qu'on peut trouver terrible. Donc j'espère que vous la trouverez aussi magnifique. Dans le livre de Tara Brach, elle parle d'un enseignant de méditation qui était aussi psychologue et qui était atteint de la maladie d'Alzheimer, donc dans les premiers stades de l'Alzheimer, et qui s'est retrouvé un soir à devoir faire une causerie du soir dans une retraite méditative, et qui s'est présenté, qui s'est installé, qui a vu toutes ces personnes qui attendaient qu'il prenne la parole, et qui a eu une absence complète. Un de ces moments, je pense, dans les premières étapes de la maladie, où on a un blanc, il ne savait plus vraiment ce qu'il faisait là. Et il s'est mis, à partir du moment où il a pu le faire, à nommer à haute voix ce qu'il ressentait. C'est-à-dire confusion, peur, sentiment de solitude, peur. Et il l'a fait pendant plusieurs minutes avant que finalement la vague de ce moment de confusion soit passée et qu'il puisse donner son discours comme il l'avait prévu de le faire. Et les méditants qui étaient venus l'écouter ont dit que c'était la partie finalement la plus profondément utile de ce qu'ils avaient entendu ce soir-là. C'est que même dans une circonstance où c'est la pire chose qui puisse arriver à notre intégrité, cette maladie probablement, une des pires choses possibles. Cette partie de lui qui pouvait observer et nommer, elle était toujours intègre, elle était toujours capable de nommer la confusion, de nommer la peur, de nommer le blanc lui-même, l'absence de conscience. Il pouvait encore en être conscient. Et pour moi, c'est une anecdote qui est profondément rassurante en un sens, parce que c'est, même dans les circonstances qui sont, au-delà du fait que ce soit techniquement possible pour lui de l'avoir fait, c'est peut-être déjà rassurant en soi, mais aussi que cette attitude-là qu'il a eue soit possible dans ces circonstances-là, que finalement on puisse continuer de s'accrocher à cette compétence qui nous permet d'observer ce qui se passe en nous, même dans des circonstances où notre intégrité est extrêmement menacée et remise en question. Donc, ça ouvre une perspective d'une partie de nous qui, quoi qu'on soit en train de vivre, peut l'observer d'une façon qui n'est pas atteinte par ce qui est observé. Ça offre aussi une forme de stabilité, ce qui est complètement paradoxal parce que tout ce qu'on observe, c'est le changement. Quand on est en attention ouverte, on observe comment une sensation est remplacée par une pensée, est remplacée par un son, et comment les sons changent, les pensées évoluent. Mais justement, l'observateur qui observe tout ce qui change, ça lui donne à lui une forme de stabilité. Parce que c'est ce point d'observation à partir duquel vous pouvez observer toutes ces choses qui sont toutes changeantes. Ce point d'observation-là, par définition, lui n'est pas changeant. Il a une stabilité. Et c'est finalement, dans notre expérience, la seule chose qui soit stable. Si vous êtes en attention ouverte et que vous avez la chance peut-être de le vivre pendant une période qui vous semble assez longue, sans que votre attention soit distraite, vous avez vraiment cette conscience d'une continuité, de quelque chose de stable en vous qui peut vivre quelque chose qui n'est pas du tout stable. C'est très rare qu'on reste longtemps sur le même mode sensoriel. Très souvent, on va voyager d'une sensation pendant quelques secondes à un son juste après, à une pensée très régulièrement. Mais cette partie observatrice est stable. Et ça aussi, ça a quelque chose de rassurant. Ça renforce aussi une forme de confiance dans notre capacité à vivre quoi qu'il nous arrive avec une certaine stabilité intérieure. On peut en déduire que d'être dans cet état d'attention ouverte n'est pas neutre. C'est comme d'être dans un état de concentration, d'ailleurs, c'est subtilement agréable, c'est légèrement agréable. Si vous êtes durablement en attention ouverte, il y a un moment où vous aurez peut-être un petit sourire et vous direz c'est assez cool, en fait, d'être dans cet état-là. Peut-être que vous l'avez déjà observé. En plus de ces notions de sécurité, d'intégrité et de stabilité, j'ai toujours le sentiment qu'il y a une forme de curiosité et d'émerveillement enfantin dans l'attention ouverte. Une capacité à observer ce qui nous arrive avec un regard neuf, comme si on n'avait jamais observé une sensation et qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était qu'une sensation. Comme si les sons n'étaient pas le son d'une voiture, mais un son qui du coup peut être beaucoup plus musical et intéressant que si on l'attribue à la voiture trop rapidement. C'est comme si on recommençait à être en position d'observer tout comme si c'était la première fois. Et même ce que c'est que le temps qui passe, ce que c'est qu'une sensation qui tout à coup prend moins de place et est remplacée par un son, et comment est-ce que c'est que notre temps mental qui nous fait passer d'une chose à une autre, tout ça peut être extrêmement frais. Vous pouvez vous mettre dans la perspective d'un enfant qui découvre pour la première fois quelque chose de très intéressant et de très excitant. Il y a cette dimension-là dans l'attention ouverte. Alors, sur le plan pratique, on considère généralement qu'il y a un prérequis, et c'est aussi pour ça qu'on l'introduit à la fin du cours. Il faut avoir stabilisé son esprit avant de s'intéresser à tout et d'ouvrir son attention. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile de faire la différence entre être soi-même comme d'habitude et être en attention ouverte si on n'a pas déjà appris ce que ça voulait dire que d'être en pleine conscience sur un objet de méditation et de plus l'être. Donc, il faut passer par là. Une aide importante pour l'attention ouverte, justement à cause de la difficulté qu'elle pose, de ce manque de repère, on a toujours un repère avec la respiration. On sait que quand on n'est plus en train de penser à la respiration, on n'est plus en pleine conscience. Donc, ça peut être difficile de ne pas en avoir du tout. Et la note mentale peut prendre un petit peu la place de ce repère. Si vous nommez son pour un son, sensation pour une sensation, pensée pour une pensée, ça vous permet de structurer un petit peu cette expérience qui peut être confuse et de prendre conscience des moments où vous êtes dedans et des moments où vous êtes sorti de cet état de pleine conscience. Alors, déjà un peu de pratique en fait. Vous pouvez prendre une position un peu méditative. Et on va s'intéresser au corps. Et plutôt qu'au corps, au paysage des sensations. Prenons conscience des pieds et en observant ce qui se passe quand vous prenez conscience des pieds. Il y a une part de sensation et il y a peut-être quelque chose qui vous indique que c'est les pieds. Une image, une représentation du corps. Est-ce que vous pouvez distinguer la conscience des sensations dans les pieds et ce qui vous permet de savoir que ce sont les pieds dont vous avez conscience? Comme s'il y avait deux couches. Prenant conscience des jambes, pieds, mollets, tibias, genoux, cuisses. Et là aussi, comment savez-vous que ce sont les jambes que vous êtes en train d'observer? Qu'est-ce qui se passe en vous qui vous permet de le savoir? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est quelque chose d'intérieur? En essayant de vous y intéresser. En ajoutant le bassin aux pieds et aux jambes. Les mains. Les bras. Le dos, le torse, le ventre, la poitrine, de la taille jusqu'à la nuque. Et en ajoutant la tête, en prenant conscience du corps entier. Et en prenant conscience du corps entier, laissant l'idée de corps entier de côté, en prenant conscience de toutes les sensations qui sont présentes dans le champ de votre attention, sans accorder de l'importance à quelle partie du corps correspond à telle ou telle sensation, sans accorder de l'importance à l'étendue aux limites du corps, en portant votre attention sur les sensations en tant que pure sensation que vous percevez. Et quand vous réalisez que vous y ajoutez un élément d'anatomie, une conscience de telle ou telle partie du corps, prenant conscience de cet ajout et vous centrant à nouveau sur les sensations en tant que simples sensations, que petites perceptions qui apparaissent, qui disparaissent, qui changent, certaines plus intenses, d'autres plus légères, instant après instant. En vous laissant surprendre par l'évolution de ce paysage de sensations. et dans les sensations présentes en ce moment, en vous focalisant sur les sensations elles-mêmes et en remarquant si s'y ajoute une conscience de telle ou telle partie du corps, de telle ou telle région anatomique, faisant la différence entre les sensations et la conscience de la géographie du corps. Comment se manifestent les sensations? Comment se manifeste la conscience d'à quelle partie du corps elles appartiennent? Et vous pouvez ouvrir les yeux. Est-ce que vous arriveriez, pour peu que ça n'ait pas été complètement abstrait pour vous, à nommer, à décrire à quoi ressemblaient les deux aspects là, les sensations elles-mêmes, et puis surtout comment se manifestait la conscience de ça c'est le bras, ça c'est la cuisse, est-ce que c'était deux choses différentes pour vous ou pas? C'est très intéressant, non? De remarquer qu'il y a ces deux niveaux. Parce que si on est face à une douleur, par exemple, en fait, mon impression, qui est pas validée scientifiquement, c'est qu'il y a des degrés d'identification, par exemple, avec une douleur. Et que pour qu'il y ait « c'est ma douleur insupportable », il faut qu'on passe à un moment par cette identification avec son propre corps et la géographie du corps et cet endroit-là. Et si on arrive à revenir et à rester aussi longtemps et aussi souvent que possible avec une sensation en tant que pure sensation, sans cette idée qu'elle appartient à cette partie-là du corps, c'est plus facile de se désidentifier de quelque chose d'inconfortable et de l'observer avec plus de relâchement finalement aussi, psychologiquement. Et dans une perspective d'attention ouverte, on essaye de se désidentifier et à un niveau vraiment de base, microscopique, c'est déjà là qu'on peut le faire. C'est en distinguant la sensation pure de sa localisation, qui est en effet souvent une couche d'image très subtile qui apparaît très vite et quasi en même temps que la sensation. Mais on n'a pas besoin de ne plus avoir cette identification avec une partie ou une autre du corps. Mais par contre, on a besoin d'être capable de faire la différence, c'est tout. Donc il n'y a pas besoin de lutter contre l'image qui nous vient ou le mot qui nous vient, mais d'avoir conscience du fait que c'est des choses différentes. De la même façon que quand on ressent une douleur, et ça c'est un niveau supérieur, il y a une émotion qui s'attache à la douleur, on ne cherche pas à faire disparaître l'émotion, mais à bien distinguer la douleur en tant que douleur de l'émotion en tant que chose qui s'y ajoute. Et c'est le même travail qu'on fait, mais à un niveau un tout petit peu plus basique avec cette différence-là. Ok, chapitre 2. Les sons. On peut reprendre une position méditative. Et puisque j'ai brisé le suspense en tournant votre attention vers les sons et en faisant exactement le même travail, en étant à l'écoute des sons qui apparaissent, qui se transforment, qui disparaissent, qui sont remplacés par d'autres, en distinguant la conscience des sons en tant que sons, de tout ce qui s'y ajoute. Est-ce qu'ils sont proches? Est-ce qu'ils sont lointains? Est-ce qu'ils sont agréables? Est-ce qu'ils sont désagréables? Est-ce que c'est quelque chose qui les produit? Est-ce que je connais ce quelque chose? sans préoccupation pour leur origine, leur caractère agréable ou désagréable, leur distance, en écoutant les sons en tant que pur son et en réalisant à chaque fois que quelque chose s'y ajoute, instant après instant. Et parfois, d'écouter les sons comme une musique peut faciliter cette qualité d'attention. Et là aussi, en prenant soin de remarquer comment cette couche supplémentaire de signification se manifeste-t-elle en vous. Quelle est la différence entre la perception du son en tant que son et ce qui s'y ajoute, l'origine, la signification, la valeur. Alors, comment c'est la différence entre les deux? Est-ce qu'elle était perceptible pour vous? La différence entre le son et puis le c'est une voiture ou le je l'aime pas tellement, comment ça se manifestait pour vous? Pour moi, c'était de nouveau une image. Il y avait des moments où je voyais une image de voiture qui flashait brièvement dans mon esprit et qui mettait un emballage autour du grondement que j'écoutais. C'est les deux sens pour lesquels je trouvais que ça valait la peine de se prendre la tête un petit peu pour les découper en morceaux. Parce que c'est pour les deux pour lesquels on peut vraiment remarquer une différence, même si elle existe pour tout. Avant qu'on passe à la pratique et puis que j'aère un petit peu, si ça vous convient, et peut-être que vous pouvez vous allonger quelques minutes avant qu'on revienne en méditation assise. Pour les pensées, je voulais aussi vous donner des indications avant de méditer. Un écueil qui revient très souvent dans l'attention ouverte avec les pensées, et même avec le moment qu'on passe tourné vers les pensées dans une longue méditation, il y a trois situations face aux pensées. Ou bien, vous prenez conscience d'une pensée avant qu'elle se soit installée dans votre esprit. Et je prends l'exemple, si vous avez des pensées obsédantes, quelque chose qui vous a énervé et qui revient très souvent dans votre méditation, par exemple. Si ça revient souvent, il y a un moment où vous serez centré sur votre respiration, par exemple, et vous sentirez un début de... Mais quand même, il n'aurait pas dû me dire ça. Et c'est un début. Ou bien c'est un début de parole, ou bien c'est un début d'image, ça vous a pas encore occupé l'esprit, mais c'est en train de monter. À qui est-ce que ça arrive d'observer ça? Pour moi, c'est souvent une image. Je sais que pour d'autres personnes, c'est juste un début de dialogue intérieur, mais qui n'a pas encore vraiment pris forme, mais dont on sait, parce que c'est une pensée qui est déjà venue 14 fois avant, dont on sait ce qu'elle va être. Donc, on peut, dans ces moments-là, la reconnaître, puis dire « Ah, c'est gentil, mais non. Je t'ai déjà vu venir 14 fois en 5 minutes. Là, je reste avec la respiration. » Et ça, c'est un cas de figure, on prend conscience d'une pensée avant qu'elle nous ait occupé l'attention. Et c'est probablement le plus intéressant parce qu'il est super satisfaisant. Quand on arrive à faire ça et à rester sur ce qu'on était en train de faire, ça donne une impression de maîtrise et de sécurité par rapport à des pensées qui reviennent beaucoup. C'est pas le scénario le plus fréquent. Il y a un deuxième cas, finalement assez rare, où on peut prendre conscience d'une pensée pendant qu'on la pense, mais assez rapidement, elle va nous éloigner de l'état de pleine conscience si on la laisse vraiment se développer. Et le troisième est très fréquent. C'est le cas où on a pensé, et en pensant, on n'était plus du tout en pleine conscience, et on en émerge, ou bien très peu de temps après, ou bien une éternité après que la pensée a commencé, et on se dit « Ah ouais !» Et on ne sait pas s'il faut noter pensée ou long voyage à travers le temps et l'espace. Et là aussi, c'est une façon d'observer la pensée. Et en fait, c'est ça que je voulais surtout souligner, parce qu'en attention ouverte, on peut, quand on émerge d'un de ces voyages, se dire « Ouh là là, j'étais ailleurs. Vite, maintenant, il faut que je me recentre sur mon expérience. » Alors que on peut simplement se dire « Ah, pensée, je t'ai vu. » A posteriori, certes, mais je t'ai vu. Et c'est important parce que ça veut dire que ces moments-là, on les intègre aussi dans notre méditation. On ne les considère pas comme des espèces de parenthèses où on a perdu notre esprit méditatif, où on n'était plus en train de méditer. On les considère comme une des trois façons d'observer les pensées, après coup. Et on prend le temps de dire, si on utilise la note mentale, « Ah, pensée. » Et « Toi aussi, je t'ai vu. » Comme celle qui n'était pas encore arrivée, comme celle que j'étais en train de penser, celle que je viens de penser, je l'ai aussi observée. C'est pas qu'elle m'a mise en échec méditatif. C'est simplement une autre façon d'observer les pensées. Et je pense que c'est important parce que si on considère ces moments comme des absences et comme des moments non méditatifs, qu'on ne les intègre pas dans ce qu'on observe, ils peuvent saper notre confiance dans ce qu'on est en train de faire et dans notre capacité à le faire. Alors qu'il n'y a aucune raison pour ça. C'est une des manifestations des pensées de nous emmener loin et de ne nous permettre de l'observer que quand on en sort. Donc c'est tout à fait normal.
Des fois, moi j'ai l'impression que ça va tellement...
Oui, c'est comme quand on... Ce que tu décris, c'est comme quand on se réveille le matin après un rêve. C'était un rêve super prenant et qu'on était en plein dedans et on ouvre les yeux. Ah, tu sais, je viens de rêver de... Et c'est aussi un peu humiliant. On sait que c'était un truc peut-être très intéressant et intense qui nous a emmenés loin, et on ne sait plus du tout ce que c'était. Et ça aussi, ça fait partie de l'expérience méditative, et l'avantage de l'attention ouverte, c'est qu'on peut se contenter de dire penser. Donc on l'a quand même eu dans notre filet d'observation, parce qu'on n'a pas besoin de dire penser de... On peut juste dire penser. Au moins, je suis sûr que c'en était une. Et ça suffit. Et on a fait notre job. On n'a pas besoin de s'en rappeler mieux que ça. Donc, à chaque fois que vous serez emporté par une pensée et que vous en reviendrez dans l'exercice qu'on va faire dans quelques minutes, prenez le temps de dire penser avec cette confiance intérieure de la personne qui arrive aussi à observer ces pensées-là, plutôt qu'en vous sentant ayant été complètement débordé. Dernière chose, pour les émotions. On peut avoir un mot comme émotion quand on est face à une émotion. On peut aussi, c'est ce que je fais le plus souvent, nommer sensation ou nommer pensée en fonction de ce qui domine et pas se dire qu'on a nécessairement besoin d'un mot spécifique pour une émotion. Souvent, très vite, c'est l'aspect physique qui prend le dessus dans une émotion. À peine on a reconnu que c'était de l'anxiété, on sent surtout que quelque chose s'est noué. Donc on peut simplement noter sensation et le considérer comme une sensation. Mais vous pouvez quand même vous poser la question en fermant les yeux maintenant. Parce que ça, c'est quelque chose de très basique qu'on peut observer en lien avec notre vie émotionnelle. Est-ce qu'en ce moment, il y a une tonalité émotionnelle neutre? Est-ce qu'il y a une tonalité émotionnelle plutôt agréable ou est-ce qu'il y a une tonalité émotionnelle plutôt désagréable? Généralement, on peut répondre à cette question. Est-ce que c'est plutôt agréable, plutôt désagréable ou neutre? Même de façon très subtile. Et quand vous avez répondu, question numéro 2, si c'est autre chose que neutre, si c'est agréable ou désagréable, comment et où le sentez-vous dans le corps? Qu'est-ce qui vous permet de le savoir sur le plan physique? Il y avait une tonalité légèrement, vous n'êtes pas obligé de répondre, tendanciellement agréable, lève la main, tendanciellement neutre, tendanciellement désagréable. Ok. Et comment vous l'avez remarqué quand c'était agréable? Donc ça peut être très subtil, ça peut être un léger... Un léger « je suis pas complètement content avec les circonstances dans lesquelles je me trouve ». Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi observer dans la méditation. Si vous sentez que ça va bien, ou si vous sentez qu'il y a un truc qui me dérange, tonalité émotionnelle, vous pouvez nommer émotion et vous pouvez vous intéresser à ce qui se passe dans le corps. Ou vous pouvez nommer simplement sensation, une fois que vous réalisez à quoi ça correspond dans le corps. Donc c'est une note à option, émotion, en fait. À vous de voir si elle vous est utile ou pas. On prend quelques minutes de pause.
Et on va faire une méditation pure attention ouverte, puisque sur le plan théorique, on est archi prêt.